Le premier intervenant est Julien Théry, archiviste, paléographe et professeur d'histoire du Moyen-Âge à l'Université Lumière Lyon 2, chercheur au SIAM. Ses recherches portent sur les liens entre religion et politique dans les premières formes de gouvernement centralisé en Occident à partir du Moyen-Âge central. Et depuis 2017, il a entrepris avec l'équipe d'Aposcripta la constitution d'un corpus unifié des lettres pontificales du Moyen-Âge sous la forme d'une base de données librement accessible et collaborative. Et donc sa communication va porter sur l'apport du numérique à l'histoire du premier gouvernement occidental par l'écrit de chancellerie.
Merci beaucoup pour votre invitation. Et j'espère que ce que j'ai à vous présenter ne va pas trop s'éloigner de vos préoccupations principales. Il s'agit bien d'un problème de correspondance, de documentation épistolaire. Il s'agit bien de questions, entre autres, d'édition, puisque l'un des enjeux est d'accéder au contenu textuel de cette correspondance. Ceci dit, la question de l'édition stricto sensu, de l'accès au contenu textuel édité, si possible, de façon critique, selon les règles de l'ecdotique suivie par les philologues pour ce qui est des documents médiévaux. Cette question-là n'est pas la seule, loin de là, et bien loin de constituer le seul enjeu. Le principal problème auquel se trouvent confrontés les historiens en ce qui concerne la documentation produite par la chancellerie des papes à partir du Moyen-Âge central, c'est-à-dire à partir du moment où la papauté met en place un appareil de gouvernement, à proprement parler un appareil d'État, le premier dans l'histoire de l'Occident, à l'échelle de l'ensemble de l'Europe occidentale, qui fonctionne effectivement, de façon lâche, si on le compare au fonctionnement de nos appareils d'État, aujourd'hui naturellement, avec l'administration, la vidéosurveillance, tout ce que vous voulez, tout ce qui définit aujourd'hui l'appareil d'État et qui réussit à contrôler la vie de façon extrêmement étroite et inquiétante. Bien sûr, si on compare la manière dont fonctionne l'appareil d'État, le premier dans l'histoire de l'Occident, si on met de côté, je le répète, hein, le premier, si on met de côté ce qui se passe en Angleterre au même moment, de manière très précoce, dès le XIe siècle, mais c'est un cas très particulier, l'emprise de cet appareil d'État-là, bien sûr, elle est tout à fait lâche par comparaison. Il n'empêche que c'est la même problématique que celle d'aujourd'hui qui commence, hein, celle de l'administration d'État et même du contrôle, de la capacité à agir selon des logiques d'ubiquité partout, à gouverner, donc hein, à réguler. Et cela passe par l'écrit. Cela passe évidemment par toute une série de structures matérielles. Et parmi ces structures matérielles, il y a l'usage de l'écrit, l'envoi de recommandations, d'ordres, de toutes sortes d'informations depuis un centre, et la réception, bien sûr, au centre depuis tous les contextes locaux de ces mêmes informations. En l'occurrence, c'est l'envoi de ces informations via l'écrit, l'émission d'actes écrits par le département de l'écrit des institutions ecclésiastiques centralisées, c'est-à-dire la chancellerie, qui est en cause. Et je le disais, le principal problème auquel se trouvent confrontés les historiens concernant ce premier appareil d'État et ses productions documentaires épistolaires, dont vous avez deux exemples ici, une lettre originale de Clément IV qui date de 1265, la copie au XVIIIe siècle d'une autre lettre de Clément IV conservée dans un dépôt d'archives du sud-ouest de la France. Le principal problème que l'on a donc pour traiter, pour utiliser cette correspondance aujourd'hui, c'est sa masse, absolument phénoménale. Quelques chiffres pour commencer, pour vous donner une petite idée du phénomène. Et pour ça, je vais aller sur le site accessible librement, naturellement, à tout le monde, en ligne, d'Aposcripta, l'instrument numérique dont je vais vous parler aujourd'hui. Et je vais aller, comme vous pouvez le faire de votre côté, à l'onglet ici qui évoque les lettres pontificales en quelques chiffres. Voilà, pour donner quelques éléments, avec essentiellement pour objectif de vous faire sentir à quel point il s'agit d'une source sérielle et il s'agit d'un volume documentaire absolument gigantesque, extrêmement difficile à maîtriser, qu'on peut même pas en réalité avoir pour ambition de maîtriser réellement en ce qui concerne le 15e siècle, le dernier siècle du Moyen-Âge, tant la quantité de lettres, ne serait-ce que la quantité des lettres enregistrées au Vatican dans des milliers de registres conservés, est phénoménale. Et ça correspond bien sûr à ce caractère massif, sériel, à une réalité sociologique et institutionnelle, à l'histoire de cette réalité institutionnelle. Les chiffres, l'évolution des chiffres au fil des siècles, à partir du Moyen-Âge central, et la massification de cette documentation correspond naturellement aux transformations concrètes du gouvernement des papes. On est passé, pour faire très simple, avant 1100, 1050, 1100, d'une église complètement décentralisée, où l'autorité supérieure était à l'échelle du diocèse, c'était l'évêque, en gros, et n'était pas séparée en réalité dans son fonctionnement des pouvoirs séculiers. L'évêque agissait en relation étroite avec les seigneurs séculiers. Il était lui-même issu de familles séculières. Et au-dessus de lui, il n'y avait que de temps en temps, très rarement, le concile, des conciles locaux qui réunissaient donc des prélats, les prélats d'une région, d'un royaume, qui avait une autorité supérieure éventuellement à celle de l'évêque localement, et l'autorité du pape, de l'évêque de Rome, mais purement doctrinale, au fond, sans aucune capacité de gouvernement, sans aucune capacité de commandement. Les choses changent radicalement avec ce qu'on a coutume d'appeler la réforme grégorienne, du nom du pape Grégoire VII, qui lance ce mouvement concrètement. À partir du XIIe siècle, entre 1100 et 1200, de fait, l'Église se transforme en monarchie, avec à sa tête un monarque, au sens littéral du terme. Il est seul à gouverner en dernier recours. Il est détenteur d'un pouvoir de nature absolutiste, même si le mot n'existe pas. On appelle ça la plénitude de puissance ou la majesté aussi. Les prélats, à travers toute la chrétienté, sont devenus ses agents. Au point de vue de la juridiction, qui est construite à ce moment-là, qui vient doubler le pouvoir d'ordre, c'est-à-dire purement sacramentel, où là, il y a une égalité entre les différents évêques, entre celui de Rome et tous les autres. Du point de vue de la juridiction, au contraire, il y a une stricte hiérarchie, qui est celle d'un appareil d'État. Et c'est à ce moment-là, au XIIe siècle, que les chiffres commencent à augmenter pour bientôt s'emballer. On a pour le XIIe siècle, je vais faire plus simple, on considère qu'avant 1198, avant la fin du XIIe siècle, et un tournant majeur dans l'essor, c'est le vrai take-off de cet appareil d'État, sous Innocent III, vers 1200, avant cette date, on conserve, pour toute l'histoire de la papauté, depuis sa création, dans l'Antiquité tardive, on conserve à peu près 30 000 documents. Et ce n'est même pas 30 000 documents émis par la chancellerie. C'est 30 000 traces de contact entre la papauté et des interlocuteurs. Pour le seul premier quart du XIIIe siècle, 1200-1225, on conserve autant de documents pour ces 25 années. Et là, stricto sensu, émis par la chancellerie pontificale, des lettres des papes. Dans les registres de la papauté, où, à partir de ce moment-là, les papes, les chanceliers ou vice-chanceliers, se mettent à faire recopier, pour mémoire, à titre archivistique, certains documents qui ont été envoyés, on a, pour le XIIIe siècle, pour ces registres du Vatican, et ils sont répertoriés, pas tous édités, environ 50 000 documents. 50-60 000 documents enregistrés. Mais si on compare ces lettres qui sont copiées dans les registres du Vatican avec ce que l'on trouve des expéditions de ces lettres, c'est-à-dire ce qu'il en reste, qui est conservé dans les archives des destinataires, soit des originaux, comme la lettre qui est à gauche, que vous voyez avec sa bulle de plomb, c'est l'expédition telle qu'elle a été reçue, soit des copies de toutes sortes, hein, soit médiévales, soit modernes comme celles que vous avez à droite, soit insérées dans d'autres documents médiévaux de toutes sortes, des cartulaires ou autres, hein, des copies notariées. Si l'on s'en tient, et là on ne peut plus faire déjà qu'une évaluation, au nombre de documents dont on a une trace d'une manière ou d'une autre, qui sont des lettres des papes émises par la chancellerie pontificale à un moment ou à un autre, sous la forme qu'on voit à gauche donc, hein, souvent perdue, il y a au moins 250 000 documents, probablement un peu plus, qui peuvent être, qui sont connus, hein, qui sont connus ou peuvent être connus. Ça ne veut pas dire qu'on en a tous la, on a la teneur de tous ces documents, mais, et encore moins qui sont édités. Mais ça veut dire qu'on peut connaître leur existence. Il y en a eu au moins 250 000 qui ont été émis. Si on passe au XIVe siècle à la papauté d'Avignon, avec un nouveau tournant, la papauté d'Avignon s'installe en 1309, hein, les papes s'installent en Avignon pour une série de raisons très complexes. Ils vont y rester presque 70 ans avant de rentrer à Rome. C'est le moment où la machine administrative connaît un nouveau développement tout à fait inédit qui va permettre aux papes d'être les princes les plus fastueux de la période, hein, imité par toutes les autres cours. Tout simplement parce que ce développement il va d'abord être fiscal. Un réseau de drainage des ressources des églises de tout l'Occident par la taxation, hein, via des intermédiaires qui sont souvent les banquiers italiens, pour amener des sommes d'argent fabuleuses vers Avignon, dont la papauté va disposer, devient effectif, hein, à partir de ce moment-là. Il y a une politique en particulier bénéficiale de la papauté qui consiste à attribuer et à taxer toutes les fonctions ecclésiastiques, celles de chanoine notamment, qui emportent perception des revenus d'une terre. Capacité à la papauté donc à mener une politique bénéficiale, à contrôler l'accès à ces bénéfices localement, qui se développe via les lettres et qui entraîne une production exponentielle de lettres émises par la chancellerie. Pour le seul pontificat de Clément VI, par exemple, hein, le pape connu pour avoir ouvert une période de mécénat extraordinaire à la tête de l'Église grâce à ses ressources nouvelles, hein, entre 1352 et 1362, ces 10 années-là seulement, hein, dans les registres conservés, on a entre 80 et 100 000 lettres pour 10 années. Quand on arrive, donc, je vous le disais, au XVe siècle, eh bien, le rythme de la production est encore supérieur. Hein. On a, pour l'ensemble du XVe siècle, très probablement entre 500 000 et 1 million de lettres qui sont enregistrées. Oui, les volumes en question, hein, au Vatican ne sont même pas indexés. Ils contiennent des informations d'une richesse extraordinaire sur tous les aspects de la vie sociale en Occident. Sachant que l'Église contrôle à peu près 30 à 50% des terres en Occident, hein, par le jeu des donations, à la mort des aristocrates, hein, entre autres, et règle toute une série de problèmes, hein, qui les concernent, ces terres, au temporel, tout en réglant toute une série de problèmes au spirituel, hein, en étant la juridiction supérieure en matière de mariage, par exemple, à laquelle on s'adresse, en matière de pénitence, bref. Cet ensemble épistolaire, puisque c'est un ensemble épistolaire, constitue une documentation d'une richesse inouïe pour les historiens. J'ajoute dernier point, pour vous donner un peu une idée de la masse, que là, je ne vous ai donné des chiffres qu'en ce qui concerne les lettres émises par la chancellerie. Mais il y a un nombre à peu près équivalent de suppliques qui ont été enregistrés et conservés, cette fois-ci reçus par les institutions centrales de l'Église, auxquelles souvent les lettres répondent, qui sont elles aussi conservées et inédites. Et on peut considérer qu'il s'agit aussi d'une forme de correspondance, mais là, elle est hors champ, hein, on ne la traite pas. Alors, il y a eu des entreprises de recensement, d'édition de toutes sortes de cette documentation pontificale à partir du XIIe siècle, qui ont été menées depuis l'ère, entre guillemets, scientifique de l'histoire, depuis le XIXe siècle. souvent par l'érudition allemande, souvent par les collègues allemands, avec en particulier deux pôles qui ont structuré les études, auxquels on peut se référer en partant de la page Regest, répertoire donc. Hein. Vous comprenez bien qu'on ne peut traiter cette documentation qu'en procédant par ce que les médiévistes appellent les Regestes, c'est-à-dire qu'on recense, ou les Anglais appellent ça de calendar, on recense des éléments d'identification de la lettre minimaux. C'est-à-dire le nom du pape au nom duquel elle a été émise, hein, qui l'a émise, la date autant que possible, l'incipit, les premiers mots, la référence archivistique qui permet de la connaître, éventuellement l'édition qui en a été donnée et sa référence bibliographique, si elle existe. Deux grandes entreprises, je le disais donc, qui ont de Regest au départ, qui ont été menées, l'une pour la période antérieure au XIIIe siècle, donc avant 1200, avant 1198 plus exactement, le pontificat d'Innocent III, c'est l'entreprise de Jaffé Löwenfeld, que je vais certainement retrouver tout de suite ici pour y accéder, là voilà. Et vous trouvez, ce site a postscripta est un instrument de travail pour les études dans ce domaine, des hyperliens qui vous permettent d'accéder directement sur divers sites aux numérisations PDF de ces instruments de travail. Alors, allons à la page 100 pour voir comment ça se présente. Vous voyez, alors là, on est au tout début. Je vais plutôt aller à la page 500, parce que là, on est encore en antiquité, dans l'antiquité tardive. Les dates qui sont présentées, voilà, Sylvestre II, le pape de l'an 1000, qui était un Auvergnat, Géraud d'Aurillac. Eh bien, ces lettres, telles qu'elles étaient connues, ont été recensées avec une numérotation, comme vous le voyez, une datation autant que possible, pas très précise, mais par exemple, le 26 décembre de l'an 1000, on sait que Sylvestre II a émis une lettre qu'il a envoyée à un certain comte d'Arferio Comiti. Vous voyez qu'ici, il y a une analyse, hein, c'est-à-dire un petit résumé de la lettre. Et ça, c'est un Regest. À la fin, vous avez Cantator, Historia Terracine, un érudit probablement moderne qui a écrit une histoire de Terracina et par lequel on connaît l'existence de cette lettre. Les collègues allemands se sont mis au XIXe siècle à faire ce travail de bénédictin qui consistait à rassembler toutes ces informations pour la période antérieure en 1198. Et cela a été poursuivi pour la période suivante par Potast, bibliothécaire à la bibliothèque impériale de Berlin, qui répondait à un appel d'offres de l'université de l'Académie de Berlin, pardon, en 1875-76, et qui a, pour le XIIIe siècle, le grand siècle classique de l'histoire de l'Église, où elle prend les formes institutionnelles qui sont encore les siennes aujourd'hui. Il a entrepris donc un recensement général des lettres éditées ou répertoriées dans le patrimoine imprimé dont il pouvait disposer en 1875 et lettres émises donc entre Innocent III, 1198, et le dernier pape avant Avignon, Benoît XI, qui est mort en 1304. Donc un gros XIIIe siècle, c'est le siècle où toute l'architecture du droit canonique se met en place. Vaste remploi du droit romain christianisé qui va être à l'origine du droit public européen. Hein. C'est le siècle où la papauté réussit réellement à imposer la discipline chrétienne, par l'intermédiaire des évêques entre autres, localement dans les diocèses, hein, où il y a ce qu'on appelle une révolution pastorale, où se met en place l'Ancien Régime, hein, en gros avec la division clerc-laïque. L'imposition du conformisme religieux, enfin de la conformité du style de vie aux normes chrétiennes. D'où l'intérêt particulier à ce XIIIe siècle. Voilà comment ça se présente. Vous avez 26 666, je ne sais pas si ce chiffre diabolique veut dire quelque chose, mais au total, Potast a répertorié 26 666 lettres. Il y a plein d'erreurs, naturellement. Hein. Et parfois, il manque des numéros. Quand on fait un traitement, comme nous avons quasiment fini de le faire par la base a postscripta de ces données, on se rend compte qu'il y a plein d'erreurs. Et c'est très amusant de lire la préface de Potast, qui est un Allemand de l'école érudite allemande, et qui s'excuse, hein, en citant Innocent III et en disant « Ce qui compte, ça n'est pas le combat, c'est la fin. C'est ce à quoi on arrive à la fin. » Pour dire à ses collègues qui pouvaient être scandalisés, qui ont publié quelque chose qui pouvait encore contenir des erreurs, Mais en fait, il faut le faire quand même. Je sais qu'il y a des erreurs. J'en souffre évidemment terriblement en tant qu'érudit allemand. Mais je transgresse cet interdit qui fait que beaucoup de vastes entreprises allemandes paraissent au bout de temps biblique, hein, ou ne sont pas encore parues. Et je vous livre mes données. Je livre cette documentation. Et vous voyez ici donc comment l'un des principaux instruments de travail pour le XIIIe siècle, pour cette production de lettres des papes du XIIIe siècle, se présente. Là encore, c'est une série de registres avec des dates, un résumé, et à la fin, la présentation d'un lieu d'édition qui précède l'incipit. Ici, donc, je le disais, il ne s'agit que de ce qui est édité sur papier imprimé en 1875. Et il y a des choses à côté desquelles Potast est passé. Soit dit en passant, il fait semblant d'être tout seul, il n'y a que son nom. On s'est amusé à calculer combien de temps ça lui aurait pris s'il avait fait ça tout seul, en partant du principe très irréaliste, hein, très sous-évalué, qu'il a fallu sans doute au moins un quart d'heure pour chacune de ces 26 666 notices pour la faire. En réalité, il a fallu beaucoup plus. Et on se rend compte que c'est tout à fait impossible. Il a fait travailler des centaines de personnes qui ont toutes disparu, dont pas une n'est citée, dans le volume final. Comme quoi l'exploitation dans le secteur de l'enseignement et de la recherche, ça ne date pas d'hier, mais on le savait. À côté de ce travail, donc, dont finalement la clé d'entrée était ce qui est édité, ou ce qui est mentionné dans des éditions. Il y a eu d'autres entreprises qui ont été menées, et notamment une entreprise identitaire de l'École française de Rome, en quelque sorte, menée peu après la perte de l'Alsace-Lorraine, autant de rivalités aiguës entre la France et l'Allemagne au moment où la Troisième République a besoin d'imposer une université comparable à l'université allemande, par l'École française de Rome. Et l'École française de Rome a entrepris d'éditer ou de faire les régestes, cette fois-ci, selon un critère d'accès, une voie d'entrée documentaire. En ayant accès, grâce au pape, grâce à Léon XIII et à sa politique d'ouverture, au registre des papes conservés au Vatican par la chancellerie depuis le Moyen-Âge, dans lesquels était copiée une sélection, sans qu'on comprenne bien les critères, des lettres qui étaient envoyées, des registres des papes du XIIIe siècle. Et pape après pape, entre 1875 et la fin du XXe siècle, l'École française de Rome a publié sur papier, je vous disais, pour le XIIIe siècle, autour de 50 000 lettres ou résumés de lettres. Et elle a commencé à s'attaquer aux lettres du XIVe siècle, d'ailleurs. Et puis, il y a eu le changement de support au milieu des années 2000. Et le transfert, sous forme de base de données, dans des conditions commerciales qui, aujourd'hui, ne seraient plus acceptables, avec Brepols, sous copyright, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les établissements français payent pour accéder à la base de données Ut per litteras de Brepols. On peut y accéder par la bibliothèque d'Hydro, par exemple, mais la bibliothèque d'Hydro paye à Brepols tous les ans une somme considérable pour accéder aux fruits du travail financé par l'argent public pendant plus d'un siècle en France et accompli par les membres de l'École française de Rome. Cette base de données, donc, elle est fondée sur une recherche, sur une édition et un recensement d'après les registres. Les copies faites avant expédition des lettres. Autre type d'approche, celle qui est illustrée ici par le premier volume, qui date de 1975, une approche qui, à l'inverse, va localement, dans les archives de toute la chrétienté, où se trouve la documentation ecclésiastique, repérer, alors, non pas toutes les lettres pontificales, mais les originaux d'expédition. Travail de fourmi qui a été mené pour la première fois avec les originaux conservés à Paris, au Trésor des Chartes, le saint des saints des archives royales, par un érudit et historien qui s'appelle Bernard Barbiche, qui a été poursuivi, par exemple, pour la Basilicate, donc petite région, hein, avec un volume récent qui n'est que le 8e, vous voyez à quelle vitesse ça avance. Et ça se présente de cette façon, un régeste, là encore, l'indication, un résumé du contenu en latin, la cote du document, la description de la manière dont il est bullé et une mention éventuellement de lieu d'édition ou de régeste. Ce document-là, vous voyez qu'il a été, on le comprend, copié après avoir été envoyé, ou avant d'avoir été envoyé, plutôt avant, pardon, d'avoir été envoyé, dans les registres de Grégoire IX qui sont conservés au Vatican. L'un des grands problèmes, évidemment, en tout cas l'un des grands enjeux, pour utiliser au mieux cette documentation, comprendre comment elle a fonctionné, établir par exemple des taux, comprendre le taux d'enregistrement, évaluer le taux d'enregistrement et comprendre pourquoi on enregistre un document plus qu'un autre. C'est évidemment quelque chose qui était impensable avant le numérique, mais qui aujourd'hui va presque de soi, la constitution d'un grand corpus unifié. Et un grand corpus unifié qui nécessairement intègre une donnée spécifique à ce type de documentation qui est un type de données pardon, qui correspond à ce que les médiévistes appellent la tradition. Comment est-ce que le document nous est parvenu ? Le but d'Aposcripta, qui a été lancé, donc cette base de données qui a été lancée en 2017 par l'Université Lyon 2 et par le SIAM, qui aujourd'hui comprend, comme vous pouvez le voir ici, autour de 30 000 documents. Il y en a presque 10 000 qui sont en traitement et qui vont être versés dans les jours qui viennent, en plus. C'est par une logique de crowdsourcing, hein, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit évolutif, il faut que ce soit en équipe, et c'est seulement sur ce mode que ça peut progresser, eh bien, c'est de débaucher et au fil du temps de construire ce corpus unifié. Alors, si on regarde la structure du point de vue de la chronologie, du contenu, comment se répartissent ces plus de 30 000 lettres pontificales du Moyen-Âge qui sont ici conservées, vous voyez qu'il y en a plus de 20 000 qui sont du XIIIe siècle. On a mis l'accent sur cette période-là. Regardons un petit peu comment... si j'y arrive, voilà. Pour terminer cette présentation est-ce que j'arrive ? Voilà. Regardons un petit peu comment les choses se présentent pour terminer cette présentation. Pardon, je retourne sur mon ordinateur. Voilà. Et prenons par exemple l'exemple de la lettre 947. Je recopie la numérotation ici pour qu'on y accède. Pour vous donner un petit peu l'idée du fonctionnement. Voici une lettre de Boniface VIII, pape de la fin du XIIIe siècle, sous le pontificat duquel a eu lieu le fameux attentat d'Anani, qui marque le télescopage entre l'État séculier, qui désormais ne tolère plus de concurrence, et la juridiction ecclésiastique pontificale, qui croit qu'elle va encore pouvoir demeurer universelle, lors du fameux attentat d'Anani, donc, hein, où le roi de France essaie de le faire prisonnier, ce pape, et de le faire juger pour hérésie. Boniface VIII, donc, voilà une lettre de Boniface VIII qui est conservée, on le voit ici, dans deux registres du Vatican. C'est la rubrique source manuscrite, R1, R2. Il n'y a pas les liens, les hyperliens vers les images, mais elles pourraient y être. Elles n'y sont pas tout simplement parce que le sigle Roma, radix omnium malorum avaricia, la racine de tous les mots, l'avarice, Rome fait payer très cher l'accès à ces images. Cette lettre, donc, qui contient des remontrances du roi de France à Philippe le Bel et qui est connue par son nom Ineffabilis Amoris, la présentation du tableau de la tradition, donc, hein, nous montre qu'on en a au moins trois copies. On la connaît par trois supports manuscrits différents. Deux copies dans deux registres, je le disais, et puis une copie dans un registre qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France. Et que là, on peut voir, avec l'accès direct à la page du registre où la lettre est copiée, sur Gallica, puisque ce registre a été numérisé par Gallica. la notice hein, de la lettre nous donne la liste des éditions disponibles, et cette liste n'est jamais en réalité finie. Hein. Elle est toujours évidemment susceptible d'être augmentée, tout comme est toujours susceptible d'être ajouté un champ ici concernant la tradition manuscrite. Vous observez qu'il n'y a pas là l'original, hein, l'expédition de la lettre. Elle n'est pas connue d'après cette notice. Elle l'est peut-être, mais l'information n'a pas été intégrée. Tout l'enjeu est d'intégrer dans un corpus unifié la myriade d'informations, évidemment, qui correspond aux lettres. Donc je passe hein, sur la démonstration qui pourrait être faite avec une multiplicité d'exemples. Des liens qui peuvent être faits directement avec les éditions, quand les PDF en sont accessibles aussi. Ce qui permet évidemment de comparer les textes, naturellement, de comparer les éditions, ces éditions pouvant se baser sur des témoins manuscrits qui ne sont pas les mêmes, naturellement, et des questions historiographiques pouvant en découler ou trouver leurs réponses. Vous voyez qu'ici, le champ transcription est en orange, tout simplement parce qu'elle n'est pas terminée. Et cela illustre bien le caractère évolutif de la base. Il y a de très nombreux contributeurs, des étudiants de Lyon 2, des collègues chercheurs, plus ou moins confirmés à travers toute l'Europe, mais il y en a aussi d'ailleurs aux États-Unis, hein, qui ont un login, qui ont un pass, et qui peuvent modifier les informations en deux clics, hein, voilà, je viens de le faire, et qui peuvent intervenir pour apporter une correction, quelle qu'elle soit, ajouter un champ, et livrer immédiatement à tout le monde cet enrichissement. La base est dotée depuis peu de temps, depuis quelques mois, d'un entrepôt d'images, et nous pouvons mener des campagnes de photographie dans les différents dépôts d'archives, et fournir à l'appui de chaque notice, par un hyperlien, une image du document, c'est-à-dire la possibilité pour quiconque hein, de l'éditer et de donner cette édition dans le champ transcription, y compris avec des champs d'apparat critique. Et c'est donc cette logique de crowdsourcing qui peut être ainsi mise en œuvre, telle que je l'évoquais. Conclusion en un mot, la question, c'est l'argent. L'entreprise a été lancée en 2017. Étant donné sa nécessité, qui est unanimement reconnue par les gens qui travaillent sur l'aide pontificale, nous savons, et partout où nous allons présenter cette base auprès des spécialistes, ils nous disent qu'ils l'utilisent. Elle est très largement utilisée. Nous savons sa pertinence et sa nécessité historiographique. Le problème, c'est que nous n'avons pas encore réussi à obtenir un financement qui soit à la hauteur. C'est toujours des petits financements. Là, je viens d'obtenir 10 000 euros de la Fondation Lausannoise pour la protection du patrimoine pour envoyer un boursier photographier et inventorier les lettres pontificales archivées à Dijon. Voilà. Bon, et on a eu aussi l'année dernière pour Besançon, et hop, on a eu 1000 lettres de plus qu'on a pu intégrer. Mais c'est toujours extrêmement ponctuel. En réalité, il n'y aurait pas besoin de très gros financements. Mais voilà, je dirais, avec moins de 100 000 euros, on pourrait avoir un instrument de travail tout à fait extraordinaire qui changerait les données de la recherche dans ce domaine. Et j'espère qu'on va finir par arriver à l'obtenir. Mais là, évidemment, ce qui est en jeu, ce sont des questions c'est la question du financement, de l'accès au financement quand on n'est pas parisien, par exemple, hein, quand on n'a pas de relais, rarement des relais dans les commissions ANR, par exemple. Hein. Pour être très clair, ce projet on est à sa troisième tentative auprès de l'ANR, ça va être la quatrième cette année. Il a eu des expertises très souvent dithyrambiques, mais il n'a jamais obtenu mieux jusqu'ici que la liste complémentaire. Bon, mais c'est pas. Ça fait partie des données à prendre en considération, évidemment. Donc, je les mentionne.
Merci beaucoup. Je pense qu'on peut remercier Thierry pour Julien, pardon, pour sa communication.
Merci à vous.